7h28, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, s'est rendu à l'école L'Étincelle à Montréal, une école fréquentée par des jeunes élèves autistes, donc lourdement handicapés, et qui vivent dans un milieu vétuste. C'est le moins qu'on puisse dire. On sait que cette histoire-là était arrivée sur la place publique en apprenant que ces élèves qui avaient besoin d'un lieu de répit, alors qu'ils étaient en crise, étaient souvent confinés à une espèce de placard qui n'était pas du tout conçu pour ça et pas nécessairement sécuritaire. Donc, il s'est rendu hier visiter l'école. Il est avec nous ce matin. Monsieur Roberge, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Je vais reprendre votre phrase. Est-ce qu'on devait appeler le ministre ou l'ébéniste pour cette école-là?
Certainement pas le ministre dans ce cas-là. On m'a dit que c'était peut-être plutôt le charpentier, pour être bien honnête, là, semble-t-il que l'ébéniste, il est là plus pour sculpter et faire des meubles, mais sincèrement, c'était pas un cas pour... Je suis allé visiter hier, mais l'essentiel, c'était pas la visite du ministre, c'était une intervention rapide pour sécuriser les lieux. Et la commission scolaire avait les ressources financières pour procéder rapidement. Moi, je suis encore extrêmement déçu de voir que pendant des mois, les jeunes étaient dans des milieux de, je dirais, de confinement ou de détente, là, qui étaient dangereux, carrément.
Okay,
mais hier, ce que j'ai vu, c'est que ça a été... Disons que l'urgence est passée. Maintenant, reste à améliorer vraiment les conditions d'apprentissage, les conditions d'enseignement, mais c'était tout de même plus sécuritaire qu'avant l'intervention.
OK. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette école? Si vous aviez à décrire pour les auditeurs, là, c'est quel genre d'école?
J'ai vu de la misère humaine, M. Arcan. C'est pas drôle. J'ai vu des enfants... lourdement handicapés, dont le personnel s'occupe avec une grandeur d'âme incroyable. J'ai vu des enfants qui font des crises d'épilepsie plusieurs fois par jour, qui se promènent avec un petit casque pour éviter qu'ils se blessent quand ils tombent. Des gens du personnel là, qui les entourent de leurs bras pour être sûrs qu'ils ne tombent pas à plusieurs moments. Des jeunes en crise qui circulent dans le corridor parce qu'ils ont besoin de laisser sortir leur énergie. Ils sont pas en crise pour frapper tout le monde, mais ils ont besoin de bouger. Ils sont non-verbaux, là. Donc, on s'entend qu'ils s'expriment par pictogramme et par cri. Et ils ont besoin de bouger. Donc, ils ont besoin qu'on les assoie dans un petit chariot, qu'on les promène dans le corridor. Mais c'est tellement serré, il y a tellement de personnes qui sont deux à trois à se promener dans le corridor comme ça. Donc, avec des risques de collision ou des risques, énerve l'autre parce que les deux sont là pour se calmer, mais les deux crient en même temps. Donc, on voit qu'il y a une surpopulation dans l'école, que le personnel est dévoué comme c'est pas possible. S'il y a un ciel, tout le monde y va, ça c'est certain. Mais définitivement que les lieux sont pas encore adéquats.
Mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Sincèrement, en 2019, avec tout ce qu'on a investi en éducation, comment est-ce qu'on a pu confiner dans une école vétuste des enfants qui ont de graves problèmes, puis qu'on a vu le nombre augmenter, on a surpeuplé dans des locaux qui n'étaient pas adéquats. Comment est-ce qu'on peut en arriver là?
Écoutez, M. Arcan, je me pose la même question. Je trouve que ça n'a aucun bon sens. On s'entend que ça serait difficile d'enseigner avec cette clientèle-là de toute façon, puis que ça ne peut pas être facile, même dans un contexte avec un mobilier adapté puis une classe formidable, ça reste difficile. Mais comment ça se fait que les lieux physiques ont été laissés comme ça, presque à l'abandon? Je trouve pas de bonne raison. Est-ce que les demandes n'ont pas été formées à la CSDM comme il faut? Est-ce que la CSDM a été négligente? Est-ce que le gouvernement libéral ne donnait pas les fonds nécessaires pour entretenir parce que les demandes étaient là? Sincèrement, je ne sais pas. Okay. Moi, je regarde en avant, puis ce que je dis, c'est que ça va être rénové en profondeur dès cet été, là, pas en 2021, là, dès cet été. Et j'ai discuté avec Mme Arel Bourdon, puis ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y aurait moins d'élèves. Donc, dès septembre, une école qui aura un peu plus d'amour, là, qui aura un peu plus d'allure, et moins de promiscuité, donc une amélioration nette des lieux pour les élèves et pour ceux qui y travaillent.
OK. Juste, puisqu'on parle de ces élèves-là qui ont des difficultés, il y a une rumeur, puis là, je vous la soumets ce matin, qui circule dans l'univers scolaire, là, autant les commissions scolaires que les profs, qu'il y a une volonté du ministère d'enlever ce qu'on appelle les cotes sur les élèves qui ont des problèmes. Et on sait que ça vient fixer le nombre d'enfants par classe, puis ça fixe le financement des écoles. Est-ce qu'on est en train de jouer dans ça à Québec?
Non. Ce qu'on a fait, puis c'est le précédent gouvernement qui l'a fait, puis sincèrement, c'est une bonne chose. Moi, je suis capable de le reconnaître quand Le précédent gouvernement a fait des choses qui étaient correctes. On n'est plus nécessairement obligé d'avoir un diagnostic maintenant pour donner des services professionnels. Avant, vraiment, c'était pas de diagnostic, pas de cote, pas de service. Maintenant, on donne les services en amont. C'est une bonne chose. Peut-être ça a été interprété de la façon suivante. Peut-être des fois, on se fait peur un peu, puis on se dit, bon, mais là, si on donne moins d'importance aux cotes, peut-être qu'on coupera dans les services ou rien. Je vous dirais qu'on va pas dans la direction que vous dites, M. Arcan. La conséquence de ça, c'est que les jeunes ont plus de services qu'avant, sincèrement. Ça, c'est une amélioration.
Parce que la perception des enseignants, c'est entre autres de voir une surcharge là, avec des enfants qui ont peut-être pas la cote, mais qui, bref, vont venir dans les classes puis que les profs vont avoir de la misère à gérer ça.
Ben, c'est pas là où on s'en va. Vous l'avez vu dans notre budget. Nous, on a ajouté de l'argent pour 150 classes spéciales supplémentaires. Donc, il y aura, à compter de septembre prochain, plus de classes spéciales, de classes d'adaptation pour des besoins qui ont des élèves très, très spécifiques. Donc, on s'en va pas vers une intégration à tout prix. Nous autres, c'est une intégration réussie. Donc, quand ça répond vraiment aux besoins de l'élève puis qu'il peut être en classe régulière puis que c'est bon pour lui, ben allons-y. Mais quand le jeune a vraiment des besoins spécifiques et qu'il est mieux en classe spéciale, on est d'accord pour qu'il y aille.
OK, mais là, je vais vous poser une question. Vous êtes le ministre, là, puis vous ne pouvez pas être dans le fin détail de chacune des opérations. Moi, ce qu'on me raconte, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui refusent comme telles les services. Si on n'a pas un diagnostic, ils vont même demander un diagnostic à partir de formulaires qui sont pré-établis. Autrement dit, pas de diagnostic. Encore aujourd'hui, pas de budget.
Ben là, vous m'alertez un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions au ministère, je vais faire des vérifications pour voir ce qui se passe. Ça m'interpelle. Pour moi, je pense que c'est pas la façon de gérer. Puis il faut faire passer les enfants avant les diagnostics. Et puis, les professionnels sont là, bien sûr, des fois, pour faire le diagnostic le plus fin, parce que c'est sûr que quand on sait précisément quelle est la difficulté du jeune, on peut agir avec
l'équité. Non, mais je vais vous éclairer...
Il faut pas que les professionnels fassent juste ça, là, des diagnostics. Il faut qu'ils interviennent aussi auprès des jeunes.
Là. Mais je vais vous éclairer encore plus. Là. Il y a des diagnostics qui sont plus payants que d'autres. Et il y a des directions d'école qui n'ont pas assez de budget qui vont pousser pour un diagnostic qui va leur donner plus d'argent, ce qui n'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'enfant.
Ben, ce que vous me décrivez là est inacceptable. Alors, moi, je veux des exemples, je veux des noms, je veux des vérifications pour corriger la situation. Comprenez que je vous dis pas que ce que vous dites est faux, mais c'est la première fois que je l'entends et là, il va falloir que je fasse des vérifications pour corriger.
OK. Pour ce qui est des trois écoles, on sait qu'il n'y a pas d'entente donc entre anglophones et francophones. Là, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que vous allez faire?
Bien, d'abord, je suis très déçu. J'espérais vraiment que la commission scolaire English Montreal et la Pointe-de-l'Île s'entendre au moins pour un petit peu plus de cohabitation à très court terme. Cependant, pour moi, c'est à court terme. Donc, c'est clair que d'une façon ou d'une autre, il faudra transférer des écoles parce que beaucoup des jeunes qui sont dans ces écoles-là sont des jeunes qui sont des nouveaux arrivants ou qui sont dans un milieu vraiment multiethnique. Puis on a besoin de travailler fort sur la francisation. Donc, la cohabitation avec le réseau anglophone, ça peut être correct là à très court terme. Mais à moyen terme, on veut un réseau francophone qui est capable de franciser, puis c'est sûr que ça se fait mieux franciser dans un milieu francophone. Donc, il n'y a pas de surprise là. Je pense qu'on va être obligé d'aller de l'avant, mais je suis toujours à l'écoute. Moi, je vais enclencher aujourd'hui le procédé pour qu'il y ait un transfert d'école. Ça doit passer par un décret au Conseil des ministres. Si dans l'intervalle entre aujourd'hui puis le Conseil des ministres, on me propose une alternative qui est viable, je suis toujours parlable.
OK, mais disons que le sablier tourne là, dans le sens où on peut pas étirer ça pendant des jours et des jours. Là.
Non, moi j'enclenche aujourd'hui. Là.
Okay.
On a assez attendu, mais cependant, il y a des petites procédures administratives. Ça va peut-être prendre une dizaine de jours avant que ça passe au Conseil des ministres. Alors, si on me propose quelque chose, moi je suis toujours à l'écoute. J'aime bien quand les solutions viennent du terrain. Mais je ne vois pas comment on pourrait éviter tout transfert d'immeubles à ce moment-ci. On l'a déjà fait avec Riverdale, donc sur l'île, avec ailleurs sur l'île. Vraisemblablement, on va devoir le faire avec English Montreal School Board aussi.
OK. Un dernier point. J'ai beaucoup de parents, là, c'est la période des examens, qui m'écrivent, des parents d'élèves de sixième année, qui disent qu'il y a beaucoup d'examens, d'épreuves ministérielles en l'espace de quelques jours seulement. C'est parfois deux par jour. Un, est-ce que c'est vrai? Puis deux, est-ce que si c'est le cas, c'est trop?
Là, je vous avoue que je ne connais pas le fin détail des horaires des examens ministériels. Il y en a en secondaire, il y en a en quatrième année du primaire, en sixième, secondaire 2, secondaire 4, secondaire 5. Deux ministériels dans la même journée, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Ça me surprendrait que pour un même élève, il y ait plusieurs journées avec deux examens ministériels par jour.
Ben moi, ce qu'on me dit, c'est que, je vous donne l'exemple, là, huit examens en cinq jours, du 10 au 14 juin.
Écoutez, c'est possible, mais il faut savoir aussi qu'il y en a certains qui n'exigent pas d'études préalables. Supposons un examen d'écriture, on demande aux jeunes d'écrire une production écrite. Il n'y a pas de bourrage de crâne là, il n'y a pas d'études la veille, là. On écrit un texte, donc c'est pas d'apprendre des notions. Même chose pour un test de lecture. Hein, on passe un texte à lire, puis après ça, on fait un examen sur la capacité de lire et de comprendre le texte. Oui, il peut y avoir un examen de lecture, supposons il y a un examen de maths la même journée, mais le jeune ne se prépare pas en étudiant la veille pour l'examen de lecture. C'est de la lecture du matin. Donc, okay. C'est pas nécessairement dramatique, M. Arcand.
Parfait. Pose la question. Juste pour revenir, pour conclure, là, sur les cas de diagnostic qui sont pratiquement préétablis, puis les diagnostics payants, vous devriez demander à votre collègue, Mme Mécan, ce qu'elle a entendu au forum sur la santé mentale.
OK.
les cas lui ont été présentés. Ou dit ça.
Bon, ben, je vais regarder ça aujourd'hui. On travaille en équipe, alors je vais aller voir Madame Mécan pour avoir des exemples et puis on corrigera la situation s'il y a lieu.
Monsieur Roberge, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Jean-François Roberge est le ministre de l'Éducation.